Corinthiens chapitre 10, c'est du verset 23 jusqu'au chapitre 11, verset 1. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous alliez manger de tout ce que l'on vous présentera, sans vous inquérir de rien par motif de conscience. Par contre, si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non pas de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence. Merci parce que ce matin encore, au travers de ta parole, tu veux nous révéler ton amour et nous faire connaître ta volonté. Fais taire maintenant toute autre voix que la tienne et ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte, chapitre 15. Certains affirment que les chrétiens d'origine païenne ne peuvent pas être sauvés si elles ne sont pas circoncis. Cette position radicale entraîne une très violente altercation entre Paul et Barnabas. L'altercation est si forte que les apôtres, les anciens et toute l'Église se réunit en un concile. Le concile est passablement agité pour décider ce qui engage l'Église. Conclusion de ce synode de Jérusalem, il nous a paru bon à chacun d'entre nous, et il a paru bon à l'Esprit Saint de ne pas vous imposer d'autre fardeau que celui qui est indispensable. Nous disons donc, abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'inconduite sexuelle. L'obligation de la circoncision est abandonnée. Victoire de l'apôtre Paul, victoire du Saint-Esprit. Ça, C'est Actes, chapitre 15. Actes, chapitre 16. Paul choisit pour l'accompagner un jeune. Son nom est Timothée. Le père de Timothée est grec. Que fait l'apôtre Paul ? Il le circoncit à cause des juifs de la région. Trouvez-vous ça cohérent ? En disant « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions de conscience personnelle », l'apôtre Paul ne respecte pas scrupuleusement les instructions qui sont données dans le chapitre 15 du livre des Actes. Il y a ici ce qu'on appelle un flottement. Pourquoi ce flottement ? Serait-ce que les instructions qui y sont données ne les concernent pas ? À la lecture de ce texte, vous vous êtes dit, et vous avez raison, qu'est-ce que c'est que ce texte ? Je suis allé au marché d'Ozoir-la-Ferrière, il y avait bien un boucher, mais ce n'était pas spécifié sacrifié aux idoles. C'était marqué cette viande, ou cachère, oui, ou pas chère. Il y a un jeu de mots là. Ces questions sont bien loin de nos préoccupations. C'est ce que l'on se dit. Eh bien, pas tant que ça. Je voudrais, ce matin, pendant les quelques minutes qui me sont imparties, vous montrer que dans la manière dont Paul agit, se manifestent des principes. Des principes qui touchent directement notre pratique. Non seulement notre pratique, mais la pratique de l'Évangile. La vie que nous sommes appelés à vivre ensemble. Au chapitre 10 de l'Épître aux Corinthiens, à propos des interdits alimentaires, certains doivent les observer, les autres non. Et Paul énonce le grand principe de la liberté du croyant. Je vous propose d'écouter Paul. Moi, je pose une question. Pourquoi ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre ? Si moi, je mange avec reconnaissance, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont moi, Paul, je viens précisément de rendre grâce ? Et on sent très bien dans ce texte que Paul a des fortes convictions. Et il y a une conviction qui est très forte chez Paul, c'est celle de la liberté. Mais sur certains points importants à l'époque, l'apôtre Paul n'impose pas ses convictions personnelles. Souvenez-vous d'où vient l'apôtre Paul. Souvenez-vous de son expérience en Christ. Il la vit d'abord en confrontation avec sa culture de pharisien intégriste. Paul est totalement lié au légalisme avant sa conversion. C'est la raison pour laquelle Paul a beaucoup, énormément travaillé sa réflexion sur la liberté du croyant. Et quand l'apôtre Paul écrit « Là où est l'esprit du Christ, là est la liberté », ou quand Paul écrit « Ne vous laissez pas voler votre liberté. » Ces paroles ont vraiment un sens pour lui. La liberté vis-à-vis de la loi se manifeste par une liberté personnelle. Liberté de conviction, liberté vis-à-vis du regard des autres. Et cette liberté résulte de l'Évangile. Elle découle du fait que la foi chrétienne a une dimension de relation de personne à personne avec Dieu. Et cela est entièrement fondé sur la grâce de Dieu. De cette relation intime avec Dieu naît une liberté. Une liberté qui est une étape importante dans notre croissance personnelle. Et Paul le soulignera dans son épître aux Galates au chapitre 5. C'est la raison pour laquelle il dira aux Galates: pourquoi donc le Christ nous a libérés? Réponse: pour que nous vivions libres. J'ai très longtemps pensé que cette liberté personnelle d'affirmation de ses convictions, ça c'était le point d'aboutissement de la maturité chrétienne. Puis en fréquentant l'Écriture et en la fréquentant de plus en plus, j'ai cherché à connaître toujours davantage Jésus-Christ. Et petit à petit, s'est dévoilé que cette liberté-là n'est qu'une étape. Une étape qui est importante, mais une étape qui n'est pas finale. Il y a une autre étape, une étape plus exigeante, une étape plus difficile, une étape qui enracine plus profondément nos vies en Jésus-Christ. Et cette étape, je voudrais que nous puissions la mettre à jour par un jeu de questions. Première question: comment utilises-tu ta liberté? Quelles sont les conséquences de ton usage de ta liberté sur les autres? Troisième question: es-tu libre vis-à-vis de ta liberté? Ou es-tu dominé par elle? Éclairé par l'exemple de Jésus-Christ, ce que j'appelle ma liberté chrétienne se révèle être comme un mélange de liberté. Mais si je regarde cette liberté, j'y vois aussi de l'égoïsme et j'y vois de l'immaturité. Parce qu'à un certain point, ma liberté m'empêche de me laisser conduire plus profondément en Jésus-Christ. Et cette liberté-là se suffit d'une relation qui est superficielle avec Jésus. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul dit ceci: mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Par amour, faites-vous esclaves les uns des autres. Vivre sa liberté à l'égard des autres, être capable de s'affirmer, c'est une étape indispensable de l'expérience de la foi. Mais ce n'est qu'une étape. Vous devez passer par là. Mais qui veut se conduire selon l'exemple de Jésus-Christ doit se laisser conduire encore plus loin. Avez-vous noté? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais qu'il considère l'intérêt de l'autre. Le résumé de la loi, ce n'est pas « sois libre ». Le résumé de la loi, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». La liberté n'est qu'illusion quand elle est réduite à une manifestation de l'amour de soi-même. La vraie liberté, frères et sœurs, la vraie liberté, c'est celle qui me conduira à une totale disponibilité pour suivre Jésus-Christ. Sois un homme libre. soit une femme libre, mais sois aussi libéré de toi-même. Que ta liberté soit un outil au service de ton prochain. L'apôtre Paul écrit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Pour la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas une formule creuse. Faites tout pour rendre gloire à Dieu. Est-ce que tu agis ? Est-ce que j'agis pour la gloire de Dieu ? Agir pour la gloire de Dieu, c'est prendre en exemple, en s'inspirant la manière dont Dieu s'est révélé en nous, par Jésus-Christ. Au verset 33, Paul exprime clairement le principe qu'il conduit. Son attitude, ce n'est pas celle d'un adolescent tout fiereux, fier de manifester sa liberté, et peu importe les conséquences, Paul manifeste sa liberté vis-à-vis de lui-même dans l'intérêt spirituel de la multitude. Le but, c'est que les autres soient sauvés. Et c'est ce qui éclaire son comportement. Afin qu'elle soit sauvée, dit Paul. Et Paul comprend que certaines des exigences qu'il s'impose à lui-même, ou certaines libertés qu'il vit profondément, peuvent être des pierres d'achoppement inutiles sur le chemin du salut des hommes. Et c'est pour cela que Paul circoncit Timothée. Il circoncit Timothée pour ne pas poser une barrière à ses frères juifs qui sont près de lui. S'il n'avait pas circoncis Timothée, il aurait été une pierre d'achoppement pour les juifs. Et ce qu'il vise, c'est le salut des hommes. Alors peu importe ses convictions, il le fait pour ne pas être une barrière. Sa conviction, ce n'est pas celle-ci. Mais ce qu'il veut, c'est le salut des autres. Le plus important pour lui, ce n'est pas de maintenir à tout prix sa conviction. Ce qui est important pour lui, c'est de ne pas confondre ses opinions et la croix du Christ qui veut sauver le monde. Alors au seuil de notre assemblée générale ordinaire, qui va avoir lieu dans à peu près 3 heures, j'ai une question pour chacun de vous. Dis-moi, mon frère, dis-moi, ma sœur, qui vas-tu circoncire cet après-midi ? À quelle image de toi-même vas-tu renoncer ? Cette image de toi-même, c'est peut-être une conviction particulière ? C'est peut-être un aspect de ta personnalité ? C'est une zone de ce moi qui n'est pas totalement ouvert à la lumière du Christ. Bien sûr, c'est évident. Tu peux chercher une église en tout conforme à tes convictions. Tu peux la chercher. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. Si tu penses que tu as trouvé cette église, alors permets-moi de te dire, tu es en grand danger. Méfie-toi, tu es en grand danger. Ne cherche pas une église à ton image, mais conforme-toi à l'image du Christ. L'église qui est fidèle ne l'est pas seulement par sa confession de foi, elle doit être aussi fidèle par l'exemple qui a été donné par Jésus-Christ. Ce Jésus qui enseigne que la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Alors encore moins pour ma loi à moi. Ce Jésus qui s'est dépouillé de la gloire divine pour nous rejoindre, cette liberté vraie, c'est un dépouillement. Pour nous, c'est un dépouillement douloureux de petites et de grandes choses. Je vais vous dire un secret qui ne le sera plus un secret. y a presque 6 mois, pas loin de 6 mois, je jurais à qui voulait l'entendre que je ne serais jamais pasteur d'une église où on donne des petits verres à la Sainte Seine. Et c'est assez difficile pour moi. Mais l'unité de l'Église, frères et sœurs, la communion fraternelle est beaucoup plus importante que les signes qui la manifestent. Tu as des convictions légitimes. Tu as des convictions excellentes sur ce que tu crois être l'Église. Tu as des convictions sur la musique, sur le culte. Je suis persuadé que tu peux défendre tes convictions brillamment. Et je t'invite à le faire cet après-midi. Fais-le, parce que c'est le temps de le faire. Ne renonce pas à tes convictions, mais apprends simplement. Apprends simplement avec Paul que Jésus est la vraie liberté. Et comme Jésus soit un serviteur libre, pas un maître qui va cet après-midi imposer sa volonté, mais soit cet après-midi un serviteur qui est libre. Pour Paul, il n'y a de seigneurie que Jésus, que la croix. Il y a la grâce, la gratuité totale du salut. Il y a les 10 commandements. Ça, c'est la foi chrétienne. Mais laisse-moi te dire que tout le reste, c'est secondaire. Dans l'Église, il y a un temps pour les débats et il doit y avoir un temps pour l'unité. Probablement que je ne suis pas d'accord avec toi sur certains points, mais toi et moi, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous appelle. Et la grâce de Dieu, la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans nos raidissements. La gloire de Dieu se manifeste quand l'amour du Christ pour les hommes nous rend humbles quant à nous-mêmes. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à écouter Paul ? Estime les autres supérieurs à toi. Intéresse-toi aux autres. Et en toi, l'état d'esprit qui est en Jésus-Christ. Alors pour conclure, je dirais ne renonce pas à la liberté de la foi. Si tu renonces à la liberté que t'accorde l'esprit, tu resteras un gamin toute ta vie. Tu resteras une gamine toute ta vie. Laisse-toi conduire par la parole. Laisse-toi conduire par l'esprit. Sois libéré de toi-même. Ça, c'est un cheminement qui est très long. Et puisque le Christ t'aime, qu'importe ton image à tes propres yeux, tends les mains vers les hommes et les femmes que le Christ a tellement aimés. Tends-les tes mains. Ne laisse surtout jamais ta liberté t'empêcher d'imiter le Seigneur. Tu seras peut-être fier de toi, mais tu serais un piètre disciple. Pour terminer, je voudrais vous donner un exemple très concret. Quand nous étions étudiants en théologie avec Joël, j'avais un rêve. C'était de faire du ski, parce que j'en avais jamais fait. Le Seigneur m'a comblé depuis, je fais des camps tous les ans. Mais là, j'en avais jamais fait. Et j'ai partagé cela avec une amie qui était mariée aussi, et qui m'a dit, mais moi j'habite Grenoble. Aux prochaines vacances, tu viens, on fait du ski ensemble. Et nous sommes allés faire du ski. À cette époque, il y a 30 ans, on achetait des tickets. Un ticket égale une remontée. 2 tickets égale 2 remontées, et ainsi de suite. Comme nous n'avions pas de sous, on avait acheté 3 tickets. Alors je suis monté, je suis descendu en ski, super. J'ai redonné mon ticket, je suis redescendu. Puis en descendant, je me dis, mais c'est pas possible, il me reste plus qu'un ticket, j'ai dit qu'il devait remonter. Seigneur, tu as permis que je sois là, regarde. les montagnes, la nature que tu as créée, c'est fantastique. Et je peux plus, c'est fini. Seigneur, fais quelque chose. Je sais pas, mais fais quelque chose. Parce que moi, j'ai pas envie de m'arrêter, je veux ce qui est. Fais quelque chose, Seigneur. Et je suis descendu, et quand je suis arrivé au remonte-pente, j'ai fait la queue comme tout le monde. Et au moment où je donnais mon ticket, il y a le téléphone qui sonne. Et le gars qui poinçonnait les tickets, il s'en va et il décroche. Et moi j'étais là avec mon ticket et il me dit oh, allez-y, allez-y. Alors je suis monté. Je suis monté et puis je disais merci Seigneur. Alléluia. T'as exaucé ma prière. Seigneur, t'es merveilleux. J'ai pas de mots assez grands pour te dire. Bah, génial, Jésus. T'es merveilleux. Et j'ai dit à mon copain qui était là-haut et à sa femme, il y avait Joël, elle était là. Je lui dis Seigneur est merveilleux. Et j'en pleurais. Et mon copain, il me dit, mais attends Jean-Claude, t'as pas l'intention de remonter? Bah, je dis, si, j'ai un autre ticket. Il me dit, mais attends Jean-Claude, t'as payé 3 tickets, pas 4. Si jamais tu remontes, t'es un voleur. Je lui dis, mais attends, mais moi j'ai prié moi. Mais il me dit, je m'en fous que t'aies prié. T'as acheté 3 tickets, tu dois faire 3 remontées. Et on s'est fâché, demandé à Joël, on s'est vraiment fâché. Alors il avait ses convictions valables. Puis j'avais les miennes valables aussi. Parce que j'avais prié, hein. Eh oui. Alors qui a raison? Qui a raison? Le seul problème ici, c'est qu'il n'y en a pas un qui a respecté la liberté de l'autre. En disant, écoute Jean-Claude, c'est pas ma conviction. Mais si toi tu as la conviction de le faire, fais-le. Moi je le ferai pas, mais toi fais-le. Dans un camp de ski, une fois, je vais peut-être vous choquer, c'est pas le but ici, mais je voudrais que vous compreniez très très bien ce que je veux dire. Une fille m'a dit, Jean-Claude, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois qu'une chrétienne a le droit de fumer? Et je lui dis, mais quelle conviction tu as? Elle m'a dit, j'ai pas la conviction que ce que je fais est mal. Alors je lui dis, ben écoute, suis ta conviction, continue. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si tu as une conviction très forte, vis-la, mais ne l'impose jamais aux autres. C'est ta conviction, c'est pas la conviction de l'autre. Le Seigneur t'a conduit à cette conviction. Laisse le Seigneur conduire les autres à leur conviction. Et tout sera possible. Et si nous faisons cela cet après-midi, dans un respect mutuel, alors nous aurons gagné une victoire.